BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Midi une dans 60 minutes business. Bienvenue à tous. À la une de ce vendredi, cette sécheresse historique qui frappe toute la France. Comment assurer la gestion en eau alors que tous les départements de l'Hexagone et de la Corse font l'objet de mesures de restriction, ce au moins pour les 15 prochains jours. La situation pourrait être davantage préoccupante, prévient Elisabeth Borne. Tous les secteurs sont frappés, bâtiments, santé, agriculture, on fera le point. Et voilà qui n'arrange pas les affaires. EDF, l'énergéticien français en pleine renationalisation, est confronté à de nombreuses difficultés. Ce matin, il a démenti les rumeurs concernant la cession de sa filiale italienne Edison. Les amoncellements de difficultés concernent également la saison de Ligue 1 qui reprend ce soir. Les clubs de football doutent quant à leur viabilité économique. On verra ça. Bienvenue à tous. Alerte à la sécheresse, Elisabeth Borne déclenche la cellule de crise interministérielle ce matin. Cellule qui doit se réunir dans la journée. Cette sécheresse est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays, estime Matignon. Les services de la Première Ministre préviennent, elle pourrait durer sur les 15 prochains jours, voire devenir plus préoccupante encore. La cellule de crise aura pour mission de coordonner des actions pour approvisionner les régions menacées de pénurie. Le secteur de la navigation fluviale craint le pire pour la saison. La Garonne, notamment, est à un niveau préoccupant. Les 900 km de voies navigables de France sont sous tension, prévient Cécile Avézard, directrice territoriale.
Il est tout à fait possible qu'effectivement, dans certaines zones, on pense notamment au nord-est, on pense à une partie aussi du réseau qui se trouve en Bourgogne, on soit obligé de continuer ces restrictions. En revanche, sur les grands bassins de navigation de fret, donc la Seine, Rhône-Saône, toute la Moselle, notamment la Moselle aval, les bassins du nord, pour l'instant, on continue à naviguer et à maintenir le mouillage grâce aux ouvrages en fait de navigation, parce que tous ces grands fleuves sont aménagés. C'est-à-dire qu'il y a des barrages de navigation qui permettent finalement de retenir l'eau sur le territoire d'une certaine façon. C'est-à-dire maintenir la ligne d'eau pour la navigation, c'est aussi maintenir le niveau des nappes phréatiques, c'est maintenir la possibilité de continuer à utiliser l'eau des rivières pour de multiples usages.
De tous les impacts physiques, humains, sociaux, liés au réchauffement climatique, c'est elle qui représente le plus lourd, la sécheresse et ses conséquences sur les secteurs de l'énergie également, la production d'électricité tourne au ralenti chez EDF, dont la moitié des centrales sont déjà à l'arrêt. EDF va devoir réduire la production de 3 de ses centrales nucléaires en cause de cette canicule et le risque de réchauffement des fleuves en France. Une difficulté supplémentaire pour l'énergéticien qui doit aussi faire face à l'érosion de son parc, à ses pertes drastiques et au bouclier tarifaire. Le groupe, ce matin, a démenti vouloir vendre sa filiale italienne Edison, comme le rapportait la presse italienne. Mais sur le fond, le sujet pourrait bien revenir sur la table après la nationalisation du groupe pour des raisons à la fois financières et industrielles, Mathieu Pechberti.
Oui, Edison est régulièrement cité comme une des filiales qui pourrait être facilement vendue par EDF et pourrait en récupérer environ 5 milliards d'euros. Et le groupe doit réaliser un plan important de cession d'actifs de 3 milliards d'euros d'ici 2024. Alors, les investisseurs s'attendent en réalité à ce que ce plan soit relevé, évidemment, en raison de la crise énergétique qui dure, des arrêts de réacteurs, on vient d'en parler, qui persistent. Et ça coûte beaucoup d'argent à EDF. Ça a d'ailleurs coûté déjà plus de 5 milliards d'euros de pertes à EDF au premier semestre. Alors, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, lui, ne veut absolument pas vendre cette filiale Edison. C'est pourquoi ça a été démenti ce matin. Parce qu'elle ne fait pas de nucléaire, parce qu'elle est rentable et parce qu'elle elle s'est bien développée sur d'autres secteurs dans lesquels EDF est moins présent. Le gaz en Italie et également les énergies renouvelables. Mais Jean-Bernard Lévy, lui, va partir d'ici la fin de l'année. Son successeur, aura une nouvelle feuille de route dans le cadre de la nationalisation. Se recentrer sur le nucléaire, se recentrer sur les énergies renouvelables et le solaire. Alors, conserver une filiale en Italie qui fait du gaz et qui plus est achète du gaz, notamment en Russie, ça risque de pas être au goût du jour dans les années à venir. Et donc Edison pourrait en tout cas revenir sur la table. Oui.
Contrairement à EDF qui a perdu 5 milliards d'euros au premier trimestre, les grandes entreprises françaises, elles, sont en bonne santé. Malgré la crise énergétique, le conflit en Ukraine, les pénuries qui pèsent parfois sur les chaînes d'approvisionnement et cette inflation qui sape le moral des consommateurs, rien ne semble avoir de prise sur la croissance des principales entreprises du CAC 40. Sofiane Aklouf, elles enregistrent des milliards de bénéfices.
Oui, à hauteur de 73 milliards d'euros au premier semestre. C'est un quart de plus que l'année dernière et c'est surtout le double comparé à 2019, juste avant la pandémie. Pour l'heure, 38 entreprises ont publié leurs résultats. Il manque encore Pernod Ricard et Alstom, qui ont des exercices financiers décalés. Et les grands gagnants du semestre sont les secteurs du luxe et des matières premières. Le luxe se démarque, comme le prouvent les publications de LVMH et d'Hermès, avec des ventes qui ont augmenté respectivement de 26 et de 28%. Et ce, malgré un ralentissement de l'activité en Chine, l'un des principaux marchés. Progression donc parce que les grands groupes ont pu répercuter l'inflation en augmentant leurs prix sans perdre leur volume de vente. C'est le fameux concept du « pricing power ». En ce qui concerne l'énergie maintenant, la flambée des prix des matières premières a évidemment dopé les résultats des grands groupes. Le pétrolier Total Energy et le fournisseur de gaz Engie ont plus que doublé leurs bénéfices, ce qui a d'ailleurs alimenté la polémique sur les super profits.
Il y a aussi des perdants, Sofiane ?
Oui, certaines entreprises du CAC ont été fragilisées par les conséquences de la guerre en Ukraine. C'est le cas de Renault ou de la Société Générale à cause de leurs activités liées à la Russie. Et malgré tout, leur résultat est en progression sur la période. Malgré la forte croissance de ces entreprises françaises, les perspectives, Thomas, ne sont pas aussi optimistes. L'inflation, le risque de récession et les hausses des taux des banques centrales guettent. Les investisseurs, eux aussi, restent prudents. Preuve en est, l'indice du CAC 40 en juillet, il a quand même perdu 10% depuis le début du mois.
Merci Sofiane Aklouf. Les compagnies aériennes tournent enfin la page du Covid. Après 2 ans dans le rouge, Lufthansa dégage pour la première fois un bénéfice net de 159 millions d'euros au deuxième trimestre. Retour dans le vert pour le premier groupe européen du transport aérien, ce qui satisfait son patron. Mais il y a un autre dossier qui n'avance pas comme prévu pour Lufthansa, c'est le rachat de la compagnie italienne ITA, Jean-Baptiste Huette.
Notre patience n'est pas illimitée. Le patron de Lufthansa tape du poing sur la table. La compagnie allemande et MSC, le géant du transport maritime, ont formulé il y a 7 mois une offre pour racheter ITA. Une proposition qui fait partie des favorites, mais qui n'avance pas. La récente démission de Mario Draghi complique les choses. Elle fait naître la crainte que le dossier ne s'enlise. En effet, Giorgia Meloni, figure de l'extrême droite, bien placée pour devenir la prochaine présidente du Conseil italien, menace. À partir du 25 septembre, tout peut changer et la relance de notre compagnie aérienne nationale sera de la responsabilité de celui qui gouvernera. Le patron de Lufthansa vient donc d'envoyer un courrier à Mario Draghi pour tenter d'accélérer les choses. Toutefois, une grande partie de la classe politique italienne, extrême droite comprise, semble plutôt favorable au rachat de ITA par Lufthansa et MSC. C'est en réalité la situation financière de la compagnie qui inquiète. ITA n'a pas beaucoup de temps, explique le patron de Lufthansa. Elle est trop petite pour survivre seule.
La Banque d'Angleterre décide d'une hausse de ses taux d'une ampleur historique en prévision d'une très longue récession. C'est une première depuis 1985. L'institution britannique emboîte le pas donc à la Fed, à la BCE, et relève drastiquement ses taux de plus de 50 points de base afin de tenter d'endiguer l'inflation. Laura Cambeau.
Cela faisait 27 ans que la Banque d'Angleterre n'avait pas autant augmenté son taux directeur. Une décision annoncée par Andrew Bailey, gouverneur de la Banque centrale.
Le retour de l'inflation à l'objectif de 2% reste notre priorité absolue. Il n'y a pas de si ou de mais à ce sujet. Le comité a voté en faveur d'une augmentation du taux directeur de 0,5 point à 1,75%.
C'est la 6e hausse des taux depuis décembre, mais celle-ci est plus drastique. Objectif, mettre fin à l'inflation qui devrait culminer à 13% cette année dans le pays. Avec des emprunts plus coûteux, l'institution prévoit de lourds dégâts pour l'économie.
La hausse des prix de l'énergie a exacerbé la chute des revenus réels et a donc entraîné une nouvelle détérioration significative des perspectives d'activité au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe. La croissance du PIB au Royaume-Uni a ralenti et l'on prévoit maintenant que l'économie entrera en récession plus tard cette année.
Signe de l'importance de la crise au Royaume-Uni, le nouveau taux d'intérêt fixé revient au niveau de décembre 2008, taux atteint en pleine crise des subprimes.
Le déficit commercial français continue de se creuser, 71 milliards d'euros sur le premier semestre. Et sur le seul mois de juin, la chute atteint 13,3 milliards d'euros, un record mensuel. La facture énergétique a plombé les chiffres semestriels. Plus de 100 000 emplois créés en France sur le deuxième trimestre. En dépit de la guerre en Ukraine et de la flambée des cours de l'énergie, le nombre de créations dépasse les suppressions, Pierre Kupferman.
Tout à fait. Alors, on va être très précis, hein, selon les chiffres de l'INSEE. Pour le deuxième trimestre, 102 500 créations nettes d'emplois. C'est une première estimation. Elle sera affinée dans un mois. La tendance reste très positive. Et ça, ça n'était pas attendu par les économistes. Donc, il va falloir se pencher peut-être sur l'évolution du nombre des emplois non pourvus. On n'a pas encore les chiffres au deuxième trimestre. On va vraiment regarder parce que on se souvient que premier trimestre, la DARES nous disait qu'on était à près de 355 000 emplois vacants. En tout cas, le nombre total d'emplois salariés dans le privé bat un nouveau record. Un peu plus de 20 700 000. C'est quasiment 1 million et demi de plus qu'il y a 5 ans. Alors, cette poussée de l'emploi salarié, elle est en partie due au succès des contrats d'apprentissage.
Et le secteur qui peine à retrouver son niveau d'avant-crise, Pierre, c'est l'industrie.
Oui, tout à fait. Et pour bien le mesurer, d'ailleurs, il faut se pencher sur le poids de l'industrie dans l'emploi, tout secteur confondu. On est sur une baisse assez spectaculaire. En 2016, c'était 16,5%, c'est-à-dire que l'industrie représentait un emploi sur 6. Aujourd'hui, on est à 15%. Alors, ça ne veut pas dire que l'industrie est toujours un secteur en perte de vitesse. Ces dernières années, le nombre d'usines créées ou agrandies en France a dépassé celui des usines fermées, mais les nouveaux sites sont davantage robotisés et donc, oui, on produit davantage en France, mais proportionnellement avec de moins en moins de bras.
Merci Pierre Kupferman. Midi 12 sur BFM Business. La Chine impose des sanctions à Nancy Pelosi après la visite controversée de la chef des députés américains à Taïwan. Elle a déclenché notamment le lancement de ces vastes manœuvres militaires qui se déroulent dans la région jusqu'à dimanche. Madame Pelosi s'est gravement ingérée dans les affaires intérieures de la Chine et porte atteinte à sa souveraineté et son intégrité territoriale, dénonce le ministère des Affaires étrangères, sans donner de détails sur ces sanctions. De son côté, Nancy Pelosi estime que les États-Unis ne permettront pas à la Chine d'isoler Taïwan. Sa visite ne remet pas en cause le statu quo, selon la présidente de la Chambre des représentants. Alors que les démonstrations militaires de Pékin autour de Taïwan se poursuivent et provoquent la colère de Tokyo, le Premier ministre japonais demande leur arrêt immédiat. Certains tirs de missiles balistiques seraient tombés dans la zone économique exclusive du Japon. Il est midi 13 sur BFM Business. Dans un instant, on va faire le point sur la bourse, le CAC 40 à la mi-journée. Puis après, on parlera de la saison de football qui reprend ses droits. La Ligue 1 qui recommence ce soir, alors que la plupart des clubs de foot se posent des questions quant à leur viabilité économique. A tout de suite. Midi 15 sur BFM Business, le CAC 40 à la mi-journée, comment il se porte, Étienne?
Il est très attentif, le CAC 40 à la mi-journée, parce qu'il attend le rapport sur l'emploi américain tout à l'heure à 14h30, c'est la donnée de la semaine. Pour l'instant, vous avez des économistes qui s'attendent à 250 000 créations de postes au mois de juillet aux États-Unis. Puis surtout, ce qui sera regardé, c'est l'inflation salariale. Dans un contexte d'inflation, est-ce que les salaires augmentent? Ça, c'est des facteurs qui sont particulièrement surveillés par la Banque Centrale Américaine, par la Fed. Donc avant ce chiffre, de l'attentisme, moins 0,5% pour le CAC 40 sous les 6 500 points, 6478 points, le tout avec des volumes d'échanges particulièrement faibles. Dans ce contexte, on a des investisseurs qui reviennent un petit peu sur les publications de ces derniers jours. On se souvient notamment des publications de Crédit Agricole et de AXA. Et bien aujourd'hui, ce sont les deux plus fortes hausses de l'indice parisien après déjà de très belles séances ces derniers jours. Et puis à l'inverse, Publicis ferme la marche, titre qui perd 3% dans le sillage de WPP qui perd 6% du côté de Londres. On est dans le secteur de la publicité et WPP qui voit des marges se rétracter sur son premier semestre. Donc ça pèse un petit peu sur le secteur. Et puis à l'inverse, vous avez un titre qui est bien orienté du côté de Francfort, c'est Deutsche Post, hein, qui est numéro 1 notamment dans le secteur du colis avec DHL en Allemagne, et un titre qui gagne un peu plus de 5% avec un groupe qui est confiant pour cette année malgré le ralentissement économique. Il s'attend à une demande qui sera présente dans les prochaines semaines et donc ça soutient ce titre. Et puis à noter les prix du pétrole qui continuent de se tasser avec un Brent sous les 95$ et un WTI, donc un baril américain, sous les 90$. À noter quand même le pétrole qui est au plus bas depuis février avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et donc le CAC 40 qui est en petite baisse aujourd'hui, moins 0,5% sous les 6480 points pour le CAC 40.
Merci Étienne Braque, midi 16 sur BFM Business. On va faire un point dans un instant sur la reprise du championnat français de football, la Ligue 1 qui reprend ses droits ce soir, avec beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes économiques qui pèsent sur les clubs. À tout de suite.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
C'est le retour de la Ligue 1 ce soir, la Ligue 1 de football, alors que désormais la moitié des clubs français sont détenus par des capitaux étrangers, des fonds d'investissement, des milliardaires. Les rachats se sont multipliés ces dernières années, Léo Dumas.
L'Olympique Lyonnais est le dernier en date. Le club de Jean-Michel Aulas est passé sous pavillon américain cet été. C'est le milliardaire John Textor qui prend le contrôle de 66% des parts de l'OL. Et avec le probable rachat du club d'Angers par un fonds américain également, la Ligue pourrait compter 11 clubs détenus par l'étranger. Pierre Maes, auteur et consultant en droit TV, explique la principale motivation des investisseurs américains.
Les clubs de foot pour les Américains représentent en fait quelque chose qui a beaucoup de valeur à leurs yeux, parce qu'ils estiment que c'est unique en fait. C'est un monopole, l'Olympique de Lyon, il n'y en a qu'un.
C'est aussi le faible ticket d'entrée par rapport aux autres championnats européens qui fait l'attractivité de la Ligue 1. La France est d'ailleurs le deuxième pays qui exporte le plus de footballeurs, un pays de football qui n'est pas inquiété par l'inflation, estime Pierre Maes.
Le fan du foot continuera à aller au match, continuera à acheter des maillots, continuera à s'abonner à la chaîne à péage pour voir ses matchs. Donc ce secteur est assez étanche, on va dire, au problème du pouvoir d'achat, et ça en renforce également l'attractivité pour un acquéreur.
Évidemment, la perspective de plus-value à la revente motive les propriétaires. Sur ce plan, la Ligue et CVC, le fonds qui a investi dans sa société commerciale, sont optimistes pour le football français. Ils estiment notamment que les droits TV vont grimper.
Midi 18 sur BFM Business. Bonjour Lucas Rondel.
Bonjour.
Spécialiste de l'économie du sport, directeur de recherche au CNRS. On a le sentiment, alors que la Ligue 1 reprend ce soir, qu'on est face à une saison charnière. Dans quel état d'esprit est-ce que vous abordez cette nouvelle saison de football?
Disons que c'est une saison un petit peu de la renaissance, puisque c'est vrai qu'on, d'un point de vue financier, la Ligue 1 a connu quand même deux années un peu difficiles. Donc on espère effectivement que d'un point de vue financier, la Ligue 1 se relève un petit peu cette année, quoi.
Oui, deux ans qui ont été marqués par la pandémie, la chute des recettes des clubs de par la billetterie, des clubs qui ont beaucoup misé sur les droits TV, peut-être un peu trop gourmands. On se rappelle du fiasco Mediapro. Parlons, si vous le voulez bien, voilà, de ces droits TV qui doivent être renégociés cette année, puisque Amazon possède aujourd'hui la majorité des matchs, les droits de diffusion de la majorité des matchs, et Canal+ se sent un peu lésé dans cette distribution.
Oui, ben ça c'est lié aussi au protocole, un petit peu à la façon dont sont vendus les droits TV, avec un protocole d'enchère qui était spécifique. Donc Canal+ n'est pas content, parce qu'effectivement le montant avait été décidé dans une enchère qui était globale. Donc effectivement, comme il y a eu le fiasco Mediapro, la défense Mediapro, et que les droits ont été renégociés a posteriori, effectivement, Canal+ n'était pas très content. Mais d'un point de vue, il y a toujours un petit peu un litige juridique à ce niveau-là.
Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'à nouveau les clubs de foot soient trop gourmands et les yeux plus gros que le ventre? Est-ce que la Ligue 1 vaut 1 milliard d'euros?
Ça, c'est difficile à dire. D'un point de vue économique, de toute façon, la Ligue 1 vaut 1 milliard d'euros si quelqu'un est prêt à mettre 1 milliard d'euros pour acheter les droits TV. Donc de ce point de vue-là, il faut attendre un petit peu ce que va nous révéler un petit peu le marché et la la nouvelle procédure d'appel d'offres. Alors après, est-ce que moi j'aurais tendance à dire que le point faible de l'alien, c'est quand même les droits internationaux. Quand on voit effectivement que les droits internationaux qui devraient être négociés, je crois, à partir de 2023, quand on voit que les droits internationaux sont d'un montant de 85 millions d'euros pour un championnat qui a quand même effectivement le PSG dans son effectif entre guillemets avec Neymar, Messi, Mbappé, etc. C'est très très faible. À titre de comparaison, si vous regardez ce qui s'est passé à la première ligue. On est à pratiquement autant de droits de TV internationaux que de droits domestiques. Et ces droits sont à peu près de l'ordre de 2 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a quand même quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là.
Un milliard, c'était un peu en dessous du prix qui avait été négocié par Mediapro. Alors effectivement, la Ligue 1, ce n'est pas la Première Ligue, ce n'est pas la Liga, ce n'est pas le Calcio non plus. Comment est-ce qu'on attire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on rend vendable le produit Ligue 1? Est-ce que c'est par des vedettes? Vous avez parlé de Neymar, de Mbappé. Qu'est-ce qui peut attirer des investisseurs?
Moi, je pense que bon, il y a une recette simple entre guillemets, simple comme ça. Mais c'est vrai que vous avez des effets effectivement de ce qu'on appelle des effets superstars ou des effets stars. Donc c'est plus vous avez de bons joueurs dans votre effectif, plus la demande entre guillemets, la demande de stade est forte et la demande de télé va être forte. Mais vous avez aussi c'est un peu ce qui se passe au niveau de la Première Ligue ou en Espagne, etc. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quand même des locomotives. Lorsque vous avez des locomotives dans votre championnat, c'est quand même plus facile à vendre. Ça c'est clair.
L'arrivée d'un nouvel acteur, CVC, soulage un petit peu, j'imagine, le monde de la Ligue 1. Aujourd'hui, ça peut permettre de stabiliser ce secteur.
Alors, c'est vrai que les deux années passées ont été difficiles. Il y a déjà une décision qui a été difficile à comprendre, c'est-à-dire l'arrêt des championnats au moment de la crise du Covid. Donc ça a été un petit peu délicat aussi à passer. Il y a eu l'année, effectivement, à huis clos, où là aussi, ça a été un peu compliqué pour la Ligue 1, mais pour tous les championnats. Donc, on s'est retrouvé effectivement avec les deux derniers passés avec des déficits au niveau des résultats des opérations courantes, autour d'un déficit de 1 milliard pour 2020 et 1 milliard pour 2021. Donc, ça fait quand même beaucoup. Ça a été un petit peu rattrapé en 2020 par les transferts, hein, qui ont été de l'ordre de 600 000 euros. Mais l'année dernière, la balance nette des transferts a diminué de pratiquement de 50%. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu, ça a mis un petit peu la Ligue dans une situation financière délicate, sachant que ça a toujours été le cas depuis 10 ans. C'est-à-dire que vous avez une Ligue qui est déficitaire au niveau de sa balance des opérations courantes, mais qui arrive à son équilibre financier par l'intermédiaire des transferts de joueurs. Alors, ça remontait un petit peu à votre question précédente, hein. C'est-à-dire que si vous avez une ligue qui assure son équilibre financier uniquement à travers la vente de ses meilleurs joueurs, c'est vrai qu'au niveau des arguments de vente, ça nuit un petit peu à l'argument de vente. Donc, c'est vrai que là, vous avez effectivement l'arrivée des fonds d'investissement dans le football, hein, qui se traduisent de différentes manières, à travers l'achat de clubs, mais aussi à travers l'achat de parts dans les sociétés commerciales, des ligues. Ça s'est fait en Espagne et ça se fait en France. Donc c'est vrai que c'est un apport de liquidité, un apport de trésorerie pour les clubs français actuellement.
Repenser le modèle économique de la Ligue 1, mais le modèle économique des clubs aussi, pour renforcer l'attractivité de la Ligue 1, il va y avoir des clubs qui vont être déclassés. 4 doivent partir, on le sait. Les clubs misent beaucoup là-dessus pour gagner une part de ce gâteau, des droits notamment de diffusion télé. Comment est-ce qu'on avance quand on est gérant d'un club aujourd'hui et qu'on a beaucoup d'incertitudes économiques quant à une relégation possible en Ligue 2?
Alors c'est vrai que quand on regarde les clubs qui ont eu des difficultés financières dans le passé, hein, c'est-à-dire qui ont déposé le bilan ou qui ont perdu leur statut professionnel, souvent ce qui a déclenché ces difficultés financières, c'est une relégation. Hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément une mauvaise gestion des clubs, c'est plutôt une relégation. Parce que c'est vrai qu'il y a un gouffre économique entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc c'est vrai que c'est possible. Voilà, la première année, c'est encore jouable parce qu'effectivement, vous bénéficiez des revenus de l'année précédente. Et c'est vrai que si vous n'arrivez pas à remonter l'année d'après la relégation, c'est vraiment compliqué pour se redresser, quoi. On met du temps. Néanmoins, bon, c'est vrai qu'on retrouve même si ça met du temps, les clubs de foot renaissent un petit peu de leur cendre. Mais bon, c'est facile à dire, mais difficile à vivre.
Difficile à vivre pour le club des Girondins aussi, Lucas Rondel. Le cas de Bordeaux nous interpelle en ce moment, qui a Bordeaux, failli être relégué.
Aussi. Oui, Bordeaux et Saint-Étienne. Bon, c'est vrai que là, bon, apparemment, ils ont gardé leur statut professionnel et ils vont pouvoir jouer en Ligue 2. Donc, on va voir. C'est vrai qu'on va voir si cette année, ils vont être capables de remonter. Mais c'est vrai que pour les clubs de Ligue 1, ça va être compliqué. Avec quatre descentes, ça va être assez douloureux pour beaucoup de clubs. Hein.
Cette année, il y aura un événement exceptionnel, la première Coupe du Monde qui aura lieu en hiver. En novembre, 45 jours d'arrêt aussi pour la Ligue 1, ça peut faire perdre de l'attractivité selon vous ?
Alors c'est vrai que là on manque un petit peu de recul par rapport à tout ça, parce que c'est vraiment la première fois où vous avez une Coupe du Monde qui a lieu l'hiver, et notamment effectivement pour des championnats comme la Première Ligue, etc., qui ont l'habitude effectivement d'avoir ce genre d'événements internationaux au moment de l'été, c'est vrai que c'est un élément vraiment, vraiment nouveau. Alors après, quelles conséquences ça va avoir sur les championnats? C'est vrai que c'est difficile à dire, je vous dis, parce que c'est vraiment la première fois que cet événement aura lieu en hiver au milieu des grands championnats. Ma foi, il y a quand même, on peut regarder ce qui se passe, mais c'est dans des ligues qui sont un petit peu particulières. Aux États-Unis, par exemple, où eux, effectivement, ils ont tendance à jouer sur l'année civile et donc ils continuent à jouer pendant les grands événements internationaux. Mais là, vous avez effectivement, c'est un petit peu différent, parce que bon, vous avez les ligues sont capables de continuer sans leurs internationaux, quoi. Ce qui est beaucoup plus difficile donc dans les ligues européennes.
Et oui, tous les grands joueurs vont être indisponibles pendant la durée de cette Coupe du Monde.
Au niveau des performances, je ne sais pas trop. Peut-être qu'effectivement, le niveau sera meilleur parce que les joueurs sont peut-être moins fatigués, en meilleure forme, mais c'est vraiment difficile à anticiper.
Merci Lucas Rondel, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'économie du sport, d'être intervenu dans BFM Business pour nous raconter la reprise de la Ligue 1 ce soir avec cette saison à haut risque. On suivra bien sûr la Coupe du Monde à venir en novembre, Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar et pour la première année en plein hiver. Midi 28 sur BFM Business, on marque une petite pause juste après le rappel des titres et puis les meilleurs moments de BFM Business avec vous, la rediffusion de l'été. À tout de suite. Midi et demi sur BFM Business, à la une de l'actualité de ce vendredi, cette sécheresse historique qui s'abat sur toute la France et sonne l'alerte au gouvernement. Et Elisabeth Borne déclenche la cellule de crise interministérielle. Elle doit se réunir dans la journée, alors que cette sécheresse la plus grave jamais enregistrée dans notre pays, selon Matignon, pourrait durer les 15 prochains jours, voire même devenir plus préoccupante encore. La cellule de crise devra coordonner les actions pour approvisionner les besoins en eau dans les départements qui souffrent aujourd'hui de pénurie. EDF, en quête d'argent frais, dément toutefois la cession de sa filiale italienne Edison. EDF qui fait face justement à l'indisponibilité d'une partie de son parc nucléaire, l'érosion de ses bâtiments et les difficultés pour rejeter ses eaux dans les fleuves, aujourd'hui confrontés à la canicule et à la troisième vague de sécheresse. Moins de croissance de l'activité, mais toujours plus d'emplois créés. Le nombre d'emplois salariés dans le secteur privé poursuit son augmentation au deuxième trimestre, malgré la guerre en Ukraine, malgré la flambée des coûts de l'énergie, 102 500 créations nettes, une augmentation de 0,5% supérieure à celle du premier trimestre de cette année. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre relève ses taux directeurs et prévoit une récession pour la fin d'année. La hausse de 0,5 point de la Banque centrale britannique, la plus forte depuis 1995, destinée à contrer l'inflation anticipée au-dessus de 13% en octobre au Royaume-Uni. La Chine impose des sanctions à la chef des députés américains Nancy Pelosi après sa visite controversée à Taïwan, qui a déclenché la colère de Pékin et le lancement de ses manœuvres militaires immenses qui se déroulent au moins jusqu'à dimanche. Madame Pelosi s'est gravement ingérée dans les affaires intérieures de la Chine et porte atteinte à notre souveraineté et notre intégrité territoriale, dénonce le ministère des Affaires étrangères, sans donner toutefois le détail de ces sanctions. De nombreux pays qui restent confrontés à l'inflation, mais pourtant l'indice des prix mondiaux des denrées alimentaires calculé par l'ONU a baissé de 8,6 points en juillet, quatrième mois de baisse consécutive après un pic en mars, après l'invasion de la Russie. La bourse à la mi-journée à Paris. Excusez-moi.
Soixante minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
C'est des hackers spécialisés dans la cybersécurité préventive.
Ouais.
Alors c'est un hacker dûment identifié, hein, un pirate informatique, mais avec le chapeau blanc, pas le chapeau noir du méchant pirate. Alors il est doté évidemment de compétences spécialisées en cybersécurité. C'est des chasseurs de primes, parce qu'il faut vraiment les voir comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des failles. On va y revenir dans un instant. Ils vont collaborer avec les entreprises pour dénicher les failles et aider les entreprises à les corriger. Ils signalent ces failles de manière responsable. Le but, c'est pas de les garder pour eux et de les mettre dans le dark web et de les monnayer derrière. C'est vraiment de les faire ressortir pour que les entreprises puissent se réparer. Ils remontent des informations sur la faiblesse de certains systèmes. La dernière en date, vous savez, c'est le Log4Shell là, qui était cet incident en cybersécurité. Ouais. On dit que c'était l'un des plus importants sur 2021. C'est peut-être l'un des plus importants sur les 10 dernières années. Voilà, c'est en gros, je ne vais pas rentrer en détail, mais en gros, tous les logiciels utilisent une certaine bibliothèque de fichiers et à l'intérieur, il y a un code malveillant. Eh bien, ce sont des hackers éthiques qui ont repéré tout ça, qui l'ont mis sur la place, et tous les hackers se sont passés le monde, travaillé en communauté pour aider à résoudre. Voilà, là c'est vraiment des hackers éthiques. Alors là, ils ont travaillé pour la communauté, mais on peut imaginer des entreprises qui ont pu faire appel à ces hackers.
Il y en a qui sont convaincus. C'est Saber qui nous a écrit sur LinkedIn, qui nous dit c'est une règle d'or, prévenir avant de guérir. Le hacking est aussi en interne, donc une entreprise doit faire appel à ce service. On a pas mal de questions pour vous, Frédéric. Pourquoi faire appel à eux pour mon entreprise? Voilà, on va répondre à quelqu'un qui est peut-être pas convaincu apparemment.
Voilà, alors il y a trois principaux cas de figure. Alors, juste une chose. Avant, la chose pour laquelle on connaît le mieux les hackers éthiques, c'est ce qu'on appelle le bug bounty. C'est la prime à la vulnérabilité. Sur une entreprise, est-ce que j'ai des vulnérabilités? Donc, elle lance ce concours et le premier qui trouve, il a une prime. Voilà, il est payé. Donc voilà. Donc pourquoi faire appel? Première entreprise. J'ai retenu trois principaux cas de figure. Le premier, c'est une entreprise qui a un niveau de maturité assez bon en sécurité, elle a même un responsable sécurité, elle peut même avoir un service cybersécurité, mais ils ont besoin de se confronter un peu au monde réel. Donc ils vont dire aux hackers, ils vont aller voir une société de hackers, enfin ils vont les voir, leur dire voilà notre site web, je ne vous donne pas plus d'informations, allez-y, voyez si vous réussissez à rentrer. Parfois, ils ne réussissent pas à rentrer. Hein, donc ça veut dire que deuxième cas de figure, c'est on va lancer une nouvelle appli. Tiens, on va lancer les stop anti-Covid, des choses comme ça. Et bien là, on va tester cette application pour voir vraiment qu'elle n'est pas de bug. Troisième cas, c'est les entreprises qui ont plutôt été prises de court, qui sont face en pleine attaque et qui se disent comment faire pour combler mes failles ou qui ont déjà subi une attaque auparavant. Donc en général, les hackers, ils préfèrent agir au début.
Alors j'ai trois questions, 15 secondes à chaque fois, Frédéric. Ouais. Est-ce que c'est plus efficace qu'une solution de cybersécurité classique?
Ça doit venir en même temps.
Ça doit
venir en même temps. C'est tout simple. On est vraiment. Il y a tout un cahier des charges à suivre. Mais voilà, c'est pas concurrence et c'est.
C'est complémentaire.
C'est complémentaire, voilà.
Deux, est-ce qu'il peut y avoir des traîtres dans les hackers éthiques, des vrais hackers en fait? Alors ça, comment je sais que c'est quelqu'un de fiable.
C'est quand même compliqué. Alors la première chose, c'est qu'on n'est jamais sûr à 100% qu'ils ne vont pas avoir un moment de faiblesse et partir. Mais globalement, quand même, quand on a des plateformes, alors il y en a plusieurs, hein, des YesWeHack, YogoSha, HackerOne qui est le géant américain, quand ils les recrutent, ces hackers qui sont eux-mêmes des indépendants, il y a quand même, ils passent des tests, il y a un tiers de confiance, notamment en France, qui va voir leur identité, leur compte bancaire. Voir si la personne est assez claire. Donc ils embauchent. C'est très rare d'embaucher des anciens pirates. Hein. On voit qu'il y a eu une malveillance, en général ils sont repoussés. Et puis c'est un modèle qui est un concours. C'est-à-dire si un pirate retient la faille qu'il a repérée, il y a un autre qui va trouver derrière. C'est lui qui va gagner la prime. Enfin voilà, c'est
plus facile.
Mais le recrutement est quand même assez clair.
Dernière question, 20 secondes. La rémunération pour un hacker éthique peut être très attractive en fonction de la faille détectée, nous dit Baka sur LinkedIn. Combien ça coûte d'employer un hacker
éthique? Un hacker éthique, alors souvent on passe par des sociétés, hein. Je vais redonner quand même quelques noms. YesWeHack, YogoSha, le géant américain HackerOne, mais on a NeoCyber, on a Sequoia avec un K, on a Quarks Lab sur des Français qui travaillent autour de ces secteurs-là. En gros, ça coûte, pour un jeune hacker, c'est 4000 euros bruts par mois. Pour un hacker plus expérimenté, c'est 7500 euros bruts. Voilà, c'est un peu la gamme. Donc, vous imaginez, vous faites appel à une plateforme. Vaut mieux faire appel à une plateforme, celle que je viens de citer, qui eux-mêmes ont ces indépendants. Mais voilà, il faut estimer que par mois, le temps du hacking, ça va coûter coûter à peu près ce prix-là.
Ça peut bien payer finalement.
Ça peut bien payer, mais si c'est derrière pour.
Mais bien sûr, pour éviter bien des
déboires. Bien des déboires. Donc voilà, c'est vraiment une solution, surtout qu'on a vraiment en France des bons hackers. On est tous en train de chercher à être certains de ne pas avoir de faille en cybersécurité. Donc il faut y aller.
C'était notre spécialiste des nouvelles technologies, Fred Simotel, avec Guillaume Paul sur les revenus des hackers. Avant que je ne m'étouffe, la suite des rediffusions de l'été de BFM Business avec vous, Cash Piscine, l'enseigne spécialisée dans le matériel d'équipement de piscine, un reportage de Justine Vassogne avec Olivier Mélan. Mais d'abord, tous les jours sur BFM Business avec vous, on recrute 100 000 offres d'emploi la saison précédente. Dans un instant, vous entendrez Clémentine Conta qui était avec Lorraine Goumeau. A tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Clémentine, c'est un cabinet d'expertise comptable 100% en ligne, comme vous venez de le dire, avec une application web pour dématérialiser les factures et récupérer les notes de frais, et un comptable dédié à votre entreprise pour pouvoir faire votre bilan en fin d'année. Donc du conseil tout au long de l'année, un accompagnement vraiment personnalisé pour votre entreprise.
C'est un cabinet comptable 2.0, c'est-à-dire que vous offrez le côté digital et puis quand même le côté humain, vous le dites, avec un comptable dédié, c'est ça?
Voilà, on garde tout ce qu'il y a de bien dans le service humain des cabinets d'experts comptables traditionnels, puisqu'on est inscrit à l'ordre des experts comptables avec Clémentine de la Compta Saint-Pépin, et on a ajouté la technologie, puisqu'aujourd'hui on peut faire plein de choses avec les GED, les bibliothèques dématérialisées, virtuelles.
Bon, vous faites ça depuis 2012. Un pied Exactement. À Paris, un pied à Nancy, un pied à Marseille. Oui. Vous êtes 200 et vous cherchez près de 300 personnes. Qu'est-ce qui explique votre croissance comme ça tout d'un coup?
Et
ou au fil de l'eau d'ailleurs.
Alors, le Covid a accéléré beaucoup de choses dans notre marché, dans la profession d'expertise comptable, puisque tout est très dématérialisable. Il n'y a que les factures finalement papier qu'on peut prendre en photo et envoyer par mail. Donc nous, on les récupère sur notre application. Et avec le Covid, les entrepreneurs ont compris, pour ceux qui n'avaient pas encore vu cette opportunité, que c'était possible donc de passer par une solution 100% dématérialisée, comme celle de Clémentine. Et donc, on a beaucoup grandi. Donc, pour faire un petit état des lieux, là, rien que sur le début d'année, depuis le 1er janvier 2021, on a déjà recruté 100 collaborateurs. Donc, l'entreprise est en très forte croissance, en hyper croissance. Et dès demain, donc, on accueille parmi ces 100 nouveaux collaborateurs, 40 nouveaux collaborateurs pour une journée d'intégration au sein de nos bureaux.
Bon, ça fait du monde. Alors, qui vous cherchez malgré tous ces dernières oui. recrues qui vous ont déjà rejoint?
Alors, principalement, bien sûr, des comptables, puisqu'il faut accompagner les entrepreneurs. Donc, nous avons des experts comptables, des comptables juniors, des comptables seniors. Ça représente 150 postes, donc à pourvoir sur 18 mois. Et ensuite, on a aussi des alternants. Quand je parle de comptable et expert comptable, c'est en CDI. Il y a aussi des alternants, donc DCG, DSCG, master et voire même expert comptable mémorialiste. Tous ces postes-là, donc ça représente 50 postes. Et enfin, 50 postes pour la relation client, parce que les comptables accompagnent les entrepreneurs, mais on a aussi des postes de relation client, soit pour enseigner éventuellement des prospects entrepreneurs qui voudraient devenir clients, soit pour simplement les accompagner sur la formation, notamment du logiciel, l'application qu'on a développée.
Mais c'est vrai, oui. On parle beaucoup de cette profession, alors qui, je le dis comme ça, est un petit peu en train de se dépoussiérer finalement, dont on voit bien que les clients recherchent de plus en plus de compétences. Il faut, on va le dire comme ça, expression un peu surannée, que les experts comptables se mettent à la page aujourd'hui. Voilà, on le voit du côté des cabinets ancestraux, puis des entreprises comme vous, plus agiles peut-être, qui arrivent sur le marché aujourd'hui, hein, finalement.
Ça, oui, tout à fait. Et donc nous, on se dit que maintenant, c'est le moment d'investir pour que la profession vraiment aille de l'avant dans le numérique. Nous, on est un petit peu le fer de la profession. On est l'un des leaders de l'expertise comptable en ligne depuis presque 8 ans maintenant. Et donc, je pense que la plupart des experts comptables auraient à gagner à vraiment aller dans cette direction, très dématérialisée au maximum. Et donc, cette forme d'investissement, c'est le recrutement. On a pris d'ailleurs un très grand bâtiment pour accueillir tous ces recrutements, 4 800 m² dans notre siège social.
À Paris?
Alors, il est à Nancy.
À Nancy.
Mais on a aussi des bureaux à Paris. On a deux bureaux à Paris. Et on a des bureaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à Marseille.
Vous avez beaucoup utilisé le mot entrepreneur. Est-ce qu'on doit du coup comprendre que vous travaillez essentiellement avec des profils entrepreneurs, patrons, patronnes de PME? Quel est le profil type des gens qui se tournent vers vous depuis 2012 et puis aujourd'hui en 2021?
Nous, on est passionnés par les entrepreneurs. Donc, on est entrepreneurs. Et nos clients le sont également. Et effectivement, on s'adresse principalement aux créateurs d'entreprises. Donc, ça touche beaucoup les startups. Mais pas seulement. Toutes les TPE, PME de l'entreprise, le tissu économique français dans sa grande globalité. Évidemment, on ne gère pas encore le CAC 40, peut-être un jour, mais pour l'instant, à distance, on s'occupe des petites entreprises, TPE, PME, jusqu'à environ 50 salariés.
Si on est intéressé, comment ça se passe?
Alors, vous allez jeter jeter un œil au site web de Compta Clémentine. C'est Compta tout attaché avec Clémentine. Point. Est-ce que je vais mal dire ça? FatCHR? FlatCHR?
Hein?
Qu'est-ce que c'est que cette extension?
Oui, oui. FlatCHR, oui, c'est une plateforme de recrutement par laquelle on passe. Effectivement, pour candidater, il faut simplement aller sur notre site internet compta-clémentine.fr ou alors nous envoyer un mail à notre responsable des ressources humaines, Émilie.
Oui, c'est Émilie Gogna dont le nom s'affiche à l'écran. Et puis, pardon pour avoir mal éplé cette plateforme, visiblement. Compta Clémentine, ça suffit. Sur Google, vous retrouvez l'ensemble des offres. On l'a dit, comptable junior, senior, expert comptable, des chargés de clients, parce qu'il en faut bien, des gestionnaires de paie pour gérer votre croissance, des juristes et puis des comptables, vous l'avez entendu, aussi des alternants, les jeunes gens. Allez-y, postulez, ça se passe entre Nancy, Paris et Marseille.
BFM Business, 60 minutes business,